The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
This is NASCAR driver Tony Breidinger, inviting you to make a pit stop at Raising Cane's for my favorite craveable chicken fingers. Turbocharge your order and get it even faster when you order online or with the Raising Cane's app. Raising Cane's chicken fingers, one love. Raising Cane's is not affiliated with NASCAR.
La tuerie du Grand Bornand, épisode 4. Xavier, Gradiella, Sarah, Laetitia et Grégory Flactif ont tous été assassinés la nuit du 11 avril 2003. Leurs 5 ADN ont été retrouvés sur les lieux de la crémation indiqués par David Otia. L'arme de David a servi à tuer Xavier. Voilà les seules certitudes des enquêteurs. Pour le reste, on ne sait rien. Otia est passé aux aveux, il est écroué tout comme Alexandra Lefebvre, Stéphane et Isabelle Aremza. Qui a fait quoi? Qui savait? Qui a décidé de décimer la famille Flactif? Beaucoup de questions restent sans réponse. L'instruction est très loin d'être bouclée, le chemin jusqu'au procès est encore long. Surtout que David Otia a décidé de revenir sur ses aveux. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. David Otia est mis en examen pour assassinat. Stéphane Aremza pour complicité d'assassinat. Alexandre Lefebvre et Isabelle Aremza pour non-dénonciation de crime et obstacle à la manifestation de la vérité. Tous les quatre sont écroués. Et entre les anciens amis, il n'est plus question de solidarité. C'est chacun pour soi. Stéphane Aremza et Alexandra Lefebvre l'affirment. David a tout manigancé seul. Quand il leur a raconté la nuit du meurtre, il a avoué avoir commencé par tuer les enfants. Mais lors de ses aveux aux gendarmes, il a dit avoir tué Xavier en premier. Les enquêteurs tentent alors de comprendre la chronologie des faits. En recoupant les emplois du temps, les études de la téléphonie de la famille et les constatations dans le chalet, ils reconstituent minute par minute la tuerie. Et ce n'est pas du tout ce que leur a raconté David Otia. Retour ce vendredi 11 avril. Il est 17h15. Sarah, Laetitia et Grégory rentrent en bus de l'école. Ils arrivent dans le chalet familial. Ils sont seuls et préparent leur goûter. À 17h29, la téléphonie révèle qu'un des enfants Flactif a appelé sa mère. La conversation a duré 2 minutes. À 17h43, un appel sur la ligne fixe des Flactif sonne dans le vide. Les 12 minutes qui séparent les deux appels, voilà le laps de temps dans lequel David Otia a tué les 3 enfants. Les Flactif, eux, sont rentrés plus tard. Gradiella à 18h et Xavier 30 minutes plus tard. Ils ont été tués dès qu'ils ont pénétré dans le chalet sans jamais savoir ce qui s'est joué avant leur arrivée. Les enfants ont été tués avec un objet contondant, massacrés, battus à mort. Otia a ensuite transporté et brûlé les corps. Voilà comment les événements ont dû se dérouler selon les enquêteurs. David Otia ne confirme rien. Pire, moins d'un mois après ses aveux, il change de version et d'avocat. Il n'a pas tué la famille Flactif. Il était au chalet avec la famille pour s'expliquer avec le promoteur. Et là, 2 hommes ont fait irruption. Ils l'ont assommé. Quand il s'est réveillé, il était entouré des 5 cadavres que les meurtriers l'ont obligé à brûler dans la forêt. Une version dingue, bancale, invérifiable, folle, à laquelle Otia va se tenir jusqu'à la fin de la procédure. en janvier 2004. Alexandra Lefebvre et Isabelle Aremza sont libérées de prison. Elles comparaîtront libres à leur procès. Les familles des victimes dissimulent mal leur colère. Le 28 avril 2004, le nouveau juge d'instruction en charge du dossier organise une reconstitution dans le chalet des Flactifs. Othia veut bien y participer, mais pour prouver son innocence. Une centaine de gendarmes est mobilisée. La journée débute à 10h et doit s'achever tard dans la nuit. Othia porte un casque et un gilet pare-balles. Le magistrat demande la reconstitution des faits tels que Othia les a racontés lors de ses premiers aveux. Très vite, Othia se braque et refuse de rejouer la scène où il dit avoir tiré sur Xavier. Il le répète, il n'a rien fait. Il a été assommé par deux hommes qui ont tué tout le monde. La reconstitution se poursuit sans le principal suspect. Des gendarmes prennent sa place. Les scènes rejouées prouvent qu'un homme seul a pu tuer et transporter les corps sans aide. Les avocats de David Othia s'insurgent. Ils dénoncent la musculature des gendarmes chargés de transporter les corps en lieu et place de leurs clients. Autre problème soulevé par la défense. Les mannequins qui servent de cadavres sont rigides et permettent une manipulation longue, mais possible. Or, un corps sans vie n'est pas tout de suite rigide. Comment David Othia a-t-il pu, sur la terrasse à découvert, transporter le cadavre de Xavier Flactif qui avoisinait les 100 kilos ? Othia maintient sa version. Deux hommes sont arrivés au chalet. Devant ses yeux, ils ont tué Xavier Flactif avant de l'assommer. À son réveil, il saignait à la tête et à la main. Problème, à l'endroit où il dit avoir repris connaissance après le massacre de toute la famille, aucune trace de son ADN n'a été retrouvée. Othia poursuit sa version à laquelle personne ne croit. Les deux hommes l'obligent à participer à la crémation des 5 cadavres. Dans le même temps, les gendarmes qui signent le procès verbal final d'instruction s'interrogent. Un homme seul n'a pas pu faire le ménage dans tout le chalet armé d'une simple lampe de poche. Il doute qu'il ait pu transporter et brûler les corps sans aide d'un tiers. La reconstitution de la crémation des corps ne permet pas la manifestation de la vérité. Othia affirme dans ses premiers aveux qu'il a utilisé du carburant et les couvertures qui avaient servi à envelopper les corps. Il raconte que le feu s'est éteint en une heure. Or, les experts prouvent que pour brûler 5 cadavres, il faut un bûcher alimenté toute la nuit par 800 kilos de bois. 800 kilos, c'est quand même beaucoup pour un seul homme. Juin 2006. Le procès s'ouvre dans une salle des fêtes d'Annecy, aménagée pour l'occasion. Le palais de justice est en travaux. Tous les membres des familles des victimes arborent un t-shirt avec les photos de Xavier, Gradiella, Sarah, Laetitia et Grégory. Je vous laisse imaginer la tension et l'émotion qui se dégagent de cette salle. David Othia, comparé pour assassinat. Stéphane Aremza est poursuivi pour complicité d'assassinat. Isabelle Aremza et Alexandra Lefebvre sont sous le coup de 3 accusations, non-dénonciation de crime, obstacle à la manifestation de la vérité et association de malfaiteurs. Elles risquent 10 ans de prison. C'est un procès de dupes. Tous accusent Othia, qui charge deux hommes en noir. Même les experts psychiatres se heurtent au mystère Othia. Dans leur examen psychiatrique de l'accusé, on peut lire.
Il se présente à l'intérieur de la normalité clinique, avec des traits de personnalité d'allure narcissique, phobique et opératoire, avec une tendance à fuir les émotions dans l'action, avec un idéal de maîtrise plutôt qu'un fonctionnement psychopathique. On repère des traces de clivage qui lui permettent de maintenir une image de lui-même conforme à ce qu'il accepte.
Othia ne souffre d'aucun trouble, d'aucune pathologie. Il est accessible à une sanction pénale. Dans le box des accusés, il s'arc-boute à sa version. Mais personne n'y croit. Alexandra Lefebvre, enceinte de son nouveau compagnon, accable son ex. Elle demande pardon, reconnaît qu'elle aurait dû l'arrêter dans son projet fou. Elle joue gros, car tout porte à croire qu'elle a attisé la colère et le ressentiment qui ont mené au crime. Stéphane Aremza, lui, sanglote. Lors d'une audience, il interpelle son ancien ami, l'exhorte à dire la vérité. Otia lui tourne le dos, emmurée dans ses mensonges et ses silences.
Au fond de moi, c'est bloqué. C'est ma personnalité qui ne peut pas.
La défense, elle, tente de démonter le chef d'accusation d'assassinat. Qui dit assassinat dit préméditation. Les avocats de David Otia font tout pour prouver qu'il n'y a pas eu cette préméditation. Quand leur client se rend chez les Flactifs, le 11 avril, en fin de journée, il ne sait pas ce qu'il va y faire. Pour preuve, il gare son véhicule devant le chalet et attend le retour des enfants sur la terrasse, au su et au vu de tous. Il n'a pas apporté avec lui l'essence nécessaire à la crémation des corps. Les avocats plaident, sans le dire, une culpabilité en coup de folie. L'avocat général requiert la perpétuité contre David Otia. 10 ans contre Alexandra Lefebvre, 15 ans contre Stéphane Aremza et 7 ans contre son épouse Isabelle. Après 3 semaines d'audience, le jury se retire et délibère pendant 5h30. Les jurés ont suivi, mot pour mot, les réquisitions du parquet. La perpétuité assortie de 22 ans de sûreté pour David Otia, 10 ans pour Alexandra Lefebvre, 15 ans pour Stéphane Aremza, 7 pour Isabelle Aremza. 3 ans après le quintuple meurtre, le verdict soulage le clan Flactif Ortolano, au premier rang duquel Mario, seul survivant de sa fratrie. À la sortie du procès, il s'exprime devant les caméras.
Et bon, moi, je peux dire maintenant que ma famille repose en paix et qu'on n'est plus obligé d'y présumer, et qu'on peut dire maintenant assassin, complice, et voilà, on est soulagé.
David Otia est le seul à faire appel. Le 10 décembre 2007, le second procès s'ouvre devant la cour d'assises d'appel de Lyon. Et le premier jour, eh bien c'est une première dans les annales judiciaires. David Otia renonce à son appel. Il n'y aura donc pas de deuxième procès. Les familles des victimes oscillent entre colère et déception. Écoutez l'avocat Jean Chevet, interrogé par le 19-20 du journal des Alpes.
Nous arrivons ici et M. Otia nous dit « Eh bien, je me désiste. Circulez, il n'y a plus rien à voir. Je rentre dans ma cellule et les familles, ben, vous n'avez plus qu'à rentrer chez vous. » C'est un pied de nez qu'il fait aux familles.
Sandra, une sœur de Gradiela Ortolano.
Moi, je suis contente de tout arrêter parce que j'ai encore vu aujourd'hui qu'il n'est pas prêt à parler, il ne parlera jamais. Mais voilà, il n'a rien à dire, donc qu'il reste à faire sa peine et qu'on puisse faire notre deuil, continuer à faire notre chemin et essayer de tourner la page, qui n'est pas toujours facile.
Pas facile, voire impossible. En 2011, le réalisateur Éric Guirado signe Possession, un long métrage inspiré de la tuerie du Grand Bornand. La commune ayant refusé le tournage, le film aura pour décor Albertville et Méribel. Au Grand Bornand, on veut tourner la page. 3 ans plus tôt, en mars 2008, les scellés du chalet des Flactifs ont été retirés. Il a été mis en vente aux enchères. C'est un couple de Belges qui l'a acquis pour 315 000 euros. Dans la vallée, tout le monde garde en tête le quintuple meurtre et vous ne trouverez plus personne pour dire du mal de Xavier Flactif. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison de Homicide. Elle a été écrite par Virginie Gage et réalisée par Jean-Gabriel Rassa. N'hésitez pas, chers auditeurs, à nous laisser des étoiles sur vos applis de podcast préférés et de parler de Homicide autour de vous.